Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle « Regard d'ailleurs ». « Regard d'ailleurs », c'est cette envie d'élargir sa vision sur le monde, sa vision sur soi, offrir un regard différent à travers des expériences de vie. L'émission parle souvent de voyage ou donne la parole à des gens qui ont un parcours de vie un petit peu atypique ou rigolo. Audrey Jiquel avec moi dans mon salon, donc je te connais depuis quelques années via les réseaux sociaux. Je sais de toi que tu es connue aussi dans tout le réseau Oasis Écolieu en France. Pour avoir publié un bouquin qui parle d'habitat participatif, tu vis toi-même dans un écolieu à Lyon. Et je sais de toi aussi que tu es une voyageuse, que tu as voyagé en famille, voyagé aussi avant d'avoir des enfants sur un tour du monde d'une année. Donc voilà, l'idée c'est qu'on ouvre un petit peu l'histoire de ta vie, hein, que tu partages avec nous. Peut-être ton lien avec le voyage, à quel moment est-ce que tu as eu envie d'aller voir ce qui se passait, pour aller voir en dehors de notre pays, de nos frontières. Audrey, à toi.
Alors, moi les première fois où j'ai voyagé, c'était pendant une année d'études à Singapour. Je suis partie faire une année d'échange à Singapour dans le cadre de mes études d'ingénieur. Et j'ai vadrouillé un peu tout autour pendant cette année d'échange. Presque toutes les deux semaines, je me prenais un week-end et je traversais la frontière, j'allais en Malaisie. Alors Singapour, c'est tout petit, en 2 heures, on est en Malaisie. Donc c'est assez facile de voyager. Et donc j'ai vadrouillé en Malaisie, mais aussi en Indonésie, Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, Indonésie. J'ai même été jusqu'en Chine avant de rentrer en France.
Donc là, tu es jeune étudiante, hein, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, ouais. Et donc là, je découvre les joies du voyage. Je découvre le routard, je découvre le sac à dos, je découvre le fait de partir à l'aventure sans savoir où je vais dormir le soir même. Donc voilà, ça c'est une découverte pour moi. Je prends confiance là-dedans, c'est une vraie joie, mais c'est des voyages plutôt touristiques, voilà, à cette époque-là. Puis ensuite, je rencontre mon partenaire qui deviendra mon mari plus tard. Et lui-même fait une année d'échange au Chili. Et on rebelote, on refait la même chose au Chili, Chili, Pérou, Bolivie.
Tu le rencontres en voyage ou tu le rencontres à ton retour en France ?
Non, je le rencontre à mon retour en France. Et l'année d'après, lui, il part. Voilà. Donc,
Donc là, tu le suis. Quand lui part en Amérique du Sud pour son année de césure, toi, tu vas avec lui ?
Alors non, il va faire son année de césure. Puis moi, je le rejoins au bout de quelques mois pour passer 5 semaines de voyage avec lui au cours de son séjour. Et c'est à la fin de ce voyage-là qu'on se dit qu'on a envie de voyager autrement, qu'on a envie de voyager lentement et en allant plus à la rencontre des gens, parce qu'on voyait les limites de ce voyage touristique. D'aller d'un lieu à l'autre, de visiter des lieux qui sont très jolis, ma foi, mais où on est assez limité dans la rencontre avec les personnes. Et là, on se dit, OK, dans 2 ans, on va faire un voyage d'un an. Voilà, on décide ça à ce moment-là. Donc, lui, il est à la fin de ses études. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que moi, je travaillais un petit peu, mais du coup, on, à la fin des études de mon mari, on décide que 2 ans plus tard... on est assez jeunes travailleurs, en fait. On a juste mis de quoi de côté pour partir en voyage. Et là, il se passe un truc assez drôle, c'est qu'on en parle autour de nous. À nos amis, on dit voilà, dans 2 ans, on part en voyage. Et il y a un couple d'amis, en particulier l'homme de ce couple, qui demande à mon mari, qui dit mais pourquoi vous partez en voyage, c'est quoi votre délire? Et mon mari dit parce qu'on n'a qu'une vie. Et ça lui a, en fait, cet homme, ça l'a chamboulé. Et quelques semaines plus tard, ils nous ont invités chez eux à manger et ils nous ont dit est-ce qu'on peut partir avec vous? Et donc, on se retrouve à préparer ce voyage et on a mis 2 ans à le préparer, vraiment, à 4.
Mais à 4 alors ?
Voilà, à 4. On décide de partir à 4. On se dit que c'est super parce qu'en plus, on coinche. La coinche, c'est un jeu de cartes qui joue à 4 et on aime beaucoup. Une autre chose, c'est qu'on est 4 musiciens et on est 4 voix. Donc, on a monté pas mal de chants ensemble. On a beaucoup chanté pendant ce voyage. Donc voilà, on pouvait à la fois coincher, on pouvait à la fois chanter. Donc ça fait des bonnes raisons pour partir à quatre. Et donc, on prévoit ce voyage d'un an en Asie, en Afrique, sans avion, à la découverte de modes de vie traditionnels. Donc, on part vraiment, donc voilà, en ayant des contacts, en ayant des traducteurs dans tous les pays qui ne parlent pas français, parce qu'on a... En Afrique, on a été en Afrique de l'Ouest, où il y avait quand même pas mal de francophones. Mais voilà, du coup, on s'arrange pour avoir des traducteurs plutôt anglophones un peu partout en Asie et francophones en Afrique. On prépare ça, on prépare notre trajet, on prépare les trajets en bateau en particulier, qui sont des grands trajets, donc dans bateau cargo, pour aller de l'Asie à l'Afrique, et ensuite de l'Afrique à l'Europe. Voilà, on prépare tout ça et on s'est fait notre année de voyage. Et le but, c'était de faire des analyses de cycle de vie de petits villages isolés. Alors, les analyses de cycle de vie, je ne sais pas si tu connais, si tu sais ce que c'est. En gros, c'est le bilan carbone, c'est une analyse de cycle de vie où le résultat, c'est le bilan carbone. L'analyse de cycle de vie, c'est la même chose, mais au lieu de regarder que le carbone, on peut regarder aussi la consommation d'énergie fossile, on peut regarder l'acidification des océans, on peut avoir plusieurs indicateurs qui sortent. Mais bon, bref, le principe, c'est de regarder, si je prends une paire de baskets, si on fait l'analyse de cycle de vie de la basket, on va regarder... quel est l'impact sur l'environnement de l'extraction des matières premières, de la transformation de la création de la basket, de l'usure de la basket, et puis ensuite du recyclage de la basket. Donc depuis la naissance jusqu'à la mort de cette basket, quels sont tous les endroits où ça impacte sur l'environnement. Donc c'est ça l'analyse de cycle de vie. Et donc nous, on a fait ça de petits villages isolés. Donc on leur posait des questions. C'était assez énorme. C'est-à-dire que quand on va dans un petit village isolé, donc en général, ils vivent de leur culture, et qu'on leur dit combien de kilos de riz vous mangez par an, ils sont capables de nous répondre. Je ne sais pas si toi, tu es capable de répondre. Moi, je suis absolument incapable de répondre quelle quantité de riz je mange par an. Mais eux, ils sont capables de nous dire exactement quelle quantité, parce qu'en fait, ils savent exactement combien ils ont en réserve et est-ce que ça va pouvoir suffire à subvenir à leurs besoins de l'année. Et donc, ça, c'est très pratique parce que du coup, ça nous permet de faire le calcul de leur impact de l'alimentation, de leur transport, etc. Donc, ils ont cette vision-là.
Donc c'est l'empreinte écologique, en fait, hein, des villageois dans lesquels tu vas, parce que tu parles du cycle d'un produit, de bilan carbone d'une basket, hein, mais là, c'est au-delà d'un produit, c'est vraiment le mode de vie d'un habitant dans un petit village reculé quelque part dans un pays du Sud.
Voilà, c'est ça. Donc on a élargi, il faut savoir qu'en plus, à l'époque, alors je ne sais pas ce qu'il en est maintenant des données, des analyses de cycle de vie, hein, ACV pour les intimes, mais à l'époque, c'est quelque chose qui est très... occidental, on fait des ACV de choses occidentales, mais disons que par exemple, on a l'analyse de cycle de vie de la production de viande de bœuf en France, mais on n'a pas l'ACV d'une vache en Mongolie qui broute dans les steppes. Ça, c'est pas du tout le même impact. Et en fait, on est rentré dans les bases de données européennes pour élaguer tout ce qui ne servait pas, tout ce qui n'était pas, les pesticides, les tracteurs, les machins, enfin tout quoi. Et pour en revenir à se dire, bah finalement, une vache dans les steppes, finalement, son impact, c'est paix.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Comment vous avez fait votre itinéraire? C'était quoi le fil rouge? On l'a compris, c'était comprendre l'impact carbone de différents objets. Mais comment vous avez défini votre itinéraire à tous les quatre?
Bah, moi, je connaissais déjà l'Asie. Il y avait des endroits où j'avais envie d'emmener mes copains. Moi, j'avais adoré le nord du Laos, le nord du Vietnam. J'avais envie de voir des pays que j'avais pas vus, en particulier l'Inde, le Népal, l'Inde. J'avais pas vu. On avait entendu parler du Bhoutan aussi. On avait envie d'y aller. Donc, on a été, voilà, on voulait aller là. Et on ne voulait pas prendre l'avion, donc voilà, faire par les terres. Donc ça a défini pas mal de choses dans le trajet. Puis après, en fait, c'est un peu par les rencontres. On voulait aussi éviter les grandes villes, on voulait aller à la campagne, bah voilà, des villages isolés. Donc forcément, on a été spaumés.
Et l'idée de ne pas prendre d'avion, c'était aussi par rapport à votre propre empreinte écologique. On parlait déjà il y a 10 ou 15 ans, parce que ça fait déjà quelques années que tu as fait ton tour du monde. Aujourd'hui, l'avion a hyper mauvaise presse, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Oui, oui, j'ai pas dit, mais effectivement, ce voyage, c'était 2009-2010, donc ça fait déjà un moment. Effectivement, on s'est donné un peu ce challenge de ne pas prendre l'avion et de voir comment c'était possible. Et c'était possible, on a voulu le tenter. Il faut savoir que c'est sur une année de voyage, c'est possible, c'est-à-dire que le bateau entre Bombay et Tanger, hein, donc entre l'Inde et le Maroc, en passant par le canal de Suez, c'est 3 semaines. Donc ça paraît énorme. Sur un an, c'est pas grand, c'est pas tant que ça. Et en fait, c'est un voyage en tant que tel. C'est une expérience en tant que telle. C'est-à-dire, c'est incroyable de vivre 3 semaines sur un bateau cargo, de se poser. C'est une vraie pause. C'est vivre au rythme d'un cargo qui est une usine flottante. C'est des méditations face à des couchers de soleil tous les jours. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et pour moi, c'est comme la visite d'un pays. C'est vraiment quelque chose d'autre chose. Et c'est vraiment une manière aussi de vivre le voyage de manière plus lente. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et donc, on l'a fait également. Donc après, en Afrique, on est arrivé à Tanger et on a visité Sénégal, Mali, Burkina Faso, Bénin, avant de reprendre un bateau depuis le Bénin jusqu'à Amsterdam, donc ce qui nous a permis ensuite de revenir en France par la terre. Voilà, ça a été une aventure vraiment très riche, ce voyage, de visiter, de rencontrer les gens, d'avoir une autre approche avec eux. Alors après, on leur disait pas toujours qu'on faisait une analyse de cycle de vie. Ça les intéressait pas tant que ça, puis c'était un peu notre dada à nous. Mais pour nous, ça a été un prétexte d'aller vivre avec eux, d'expérimenter leur vie. En fait, en général, on vivait avec eux, donc on a vécu dans 14 villages, 10 en Asie et 4 en Afrique, pendant 10 jours à chaque fois. Il y a un village en Afrique où on est resté 3 semaines au Sénégal. Mais sinon, on vivait en moyenne 10 jours et on vivait vraiment avec eux. On allait avec eux dans les champs, on vivait avec eux à cuisiner, à manger, à vivre au quotidien. Et les questions sur l'analyse de cycle de vie, on les posait à la fin. Une fois qu'on avait lié un lien particulier, mais après on posait plutôt des questions de leur mode de vie. Comment fonctionnait l'école, comment fonctionnait l'organisation sociale, comment ça se passe dans la famille, comment est-ce qu'ils sont heureux, enfin des choses très qualitatives qui sont plus voilà des questions de on est curieux et on s'intéresse à votre mode de vie. On avait vraiment dans cette idée en fait on voulait pas passer pour des sachants et on voulait plutôt dire c'est dans ces petits villages isolés qu'en fait ils ont un mode de vie le plus écologique, bien plus écologique que nous, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Et plutôt que se positionner en « ah bah nous, on sait ce qui est écologique, on va vous apprendre », ce qui est des fois des donneurs de son, mais ce qu'on peut voir dans des dimensions humanitaires, nous, on était plutôt à dire, notre voyage, c'était vraiment de dire « on veut s'inspirer des modes de vie traditionnels ». Et d'ailleurs, quand on est rentrés, tous les quatre, on a voulu restituer ce qu'on avait vécu de voyage et on a créé un spectacle de 2 heures qui s'appelait Inspirer et qui était ce qu'on appelait entre nous un spectacle conscientisant, voilà, où on dansait, on chantait, on faisait revivre notre voyage et on invitait les personnes à se questionner sur leur manière de vivre en France. Donc voilà, ça a été une très très belle expérience qui s'appelait Dialogue sur Terre. Voilà, je pense qu'on peut encore trouver des vidéos sur YouTube. Et un autre point qui était très fort aussi, c'est qu'on voulait arriver dans les villages et offrir un cadeau qui ne soit pas monétaire, parce qu'on ne voulait pas passer pour... voilà, on a toujours payé les personnes qui nous accueillaient, parce qu'on était accueillis chez l'habitant. Donc on les a payés pour ne pas être une charge, mais on veillait à payer le juste prix pour ne pas favoriser une famille par rapport à une autre. Mais par contre, on donnait un spectacle, un petit spectacle de 20 minutes, sans parole, enfin, où on chantait, on dansait, on faisait tout un truc, pour offrir quelque chose de non monétaire. Et c'était génial pour se présenter aux villageois, d'arriver et de dire « on a un spectacle à vous offrir ». Est-ce que c'est possible de le faire quelque part, d'inviter tout le monde? Et très souvent, on le faisait au début, puis on le refaisait à la fin. Et donc ça, c'était incroyable aussi pour créer du lien.
Vous êtes resté à 4 pendant tout le voyage?
Oui, Des fois, on se tapait dessus, mais c'était une très belle aventure collective. Ça a été très fort. Pour nous tous, ça a été très transformateur. Et pour moi, j'ai appris... je suis partie athée, je suis revenue avec des pratiques spirituelles. Je suis revenue avec vraiment des... Ouais, il y a énormément de choses dans ma manière de vivre maintenant qui viennent de ce voyage, et c'est incroyable.
Parce que c'est ça les prémices de la vie en collectif, parce qu'aujourd'hui, donc, tu t'intéresses à tous les écolieux, à Habitat Participatif, et tu as choisi de vivre dans l'un d'entre eux, que tu as créé d'ailleurs, tu as fondé, je crois. Est-ce que c'est lié à ce voyage, ou à quel moment est apparue cette envie du collectif dans ton parcours, dans ton cheminement ?
Alors, quand on me dit ça, je dis, mais je n'ai pas choisi le collectif. Je n'ai juste pas choisi de vivre seule. En fait, moi, j'ai toujours vécu en collectif. J'ai été dans une famille nombreuse. Ensuite, j'ai vécu en coloc. Je suis partie en voyage à quatre. Quand je suis revenue, j'étais à nouveau en coloc. Et après, j'ai été en habitat participatif. Donc, j'ai pas fait le choix de vivre seule. Ça m'attirait pas. Ça m'a jamais attirée. Mais effectivement, pour moi, c'est naturel, le collectif. Ça veut pas dire que c'est simple. Ça veut pas dire que je me frotte pas aux autres. Mais en tout cas, j'en vois l'intérêt. Et je vois comment ça me fait grandir. Voilà. Et donc voilà, récemment je suis à nouveau repartie en voyage, donc presque 15 ans après, avec un autre collectif qui est un collectif familial où,
Alors ça, on va en parler de ce deuxième voyage, mais entre les deux, je veux bien que tu développes un petit peu le collectif. Tu dis ça m'a fait grandir ou ça me fait grandir. Donc, on a quand même des modes de vie finalement qui sont assez indépendants et individuels aujourd'hui en France. Le collectif, même si je pense que de plus en plus de gens s'intéressent ou se tournent vers ce mode de vie, c'est pas non plus la norme. Donc qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, le collectif? Qu'est-ce que tu pourrais dire à celui qui écoute ce podcast, cette émission, et qui est peut-être attiré par ça, par le collectif, mais qui n'a pas, comme toi, goûté à la coloc, ou goûté à la famille nombreuse, ou goûté à la vie à plusieurs?
Ça apporte beaucoup de choses, le collectif. Moi, au départ, je suis arrivée au collectif... la coloc, c'était un peu par nécessité, au départ, en étant étudiante. Après, ça a été par choix. Ça peut être des choix financiers, ça peut être des choix écologiques. Moi, j'ai toujours trouvé que le collectif me tirait vers le haut en termes de pratiques écologiques, de sobriété au quotidien, de convivialité aussi, parce que moi, j'adore rentrer, voir mes colocs qui prennent l'apéro, me joindre à eux, organiser des fêtes, rencontrer les amis de mes amis. Enfin, voilà, tout ça, j'apprécie. Et puis après, effectivement, il y a d'autres choses que j'ai découverte, quand je dis ça me fait grandir, c'est que justement les endroits où ça frotte, les endroits qui sont pas agréables, les endroits où je peux même être en conflit des fois assez fort, sur le coup c'est pas agréable, hein, faut le dire clairement, mais après coup je me rends compte que ça me permet de me connaître mieux moi-même, de voir les endroits... de mieux me connaître moi-même, de voir mes blessures, de les comprendre, peut-être d'aller les soigner, soit toute seule, soit avec l'aide de thérapeutes. Et ça fait vraiment grandir et ça fait du bien. Et moi, j'en sors plus confiante, plus renforcée. Et moi, le collectif, ça m'a appris des choses incroyables. En tout cas, le collectif de vie, l'habitat participatif, ça m'a permis de me former à la gouvernance partagée, à prendre des décisions en équivalence. Enfin, tout un monde que je ne connaissais pas et que petit à petit, je suis venue rapporter dans mon travail de l'époque. Enfin, voilà, dans plein de choses, d'animer des réunions. Pour moi, c'est un lien entre des humains qui est différent de ce qu'on peut connaître ailleurs, en fait. C'est pas des collègues, c'est pas des voisins, c'est pas des amis, c'est pas de la famille, c'est des cohabitants, c'est un autre niveau de relation, et je trouve ça très puissant, c'est très riche.
Tu parlais aujourd'hui à plusieurs reprises de souveraineté.
Alors, ouais, la souveraineté, c'est effectivement... c'est un peu ce que je dis, venir... quand je me connais mieux, c'est que je vais connaître un peu mieux mes limites. Ce qui est OK pour moi et ce qui n'est pas. C'est connaître aussi, par exemple, un peu mieux mes élans. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Et la souveraineté, c'est savoir poser autour de moi ses limites et ses élans. Voilà, c'est pouvoir dire à quelqu'un... par exemple, si je dis un oui, que ce soit un vrai oui. Et si je dis un non, c'est un vrai non. Mais voilà, que je le dise avec, en sachant mes limites. Ça rejoint un peu à toute cette mouvance autour du consentement. Pour moi, le consentement, c'est une sous-partie de la souveraineté, en fait. Et le collectif aide vraiment à se positionner, ouais, à mieux. Donc, je connais mieux mes limites. Parce que pourquoi on connaît mieux ses limites? Parce qu'on vient les toucher, en fait. Des fois, c'est un petit peu, ça peut être un peu rêche, un peu rude. C'est aïe, ouille, mince, je me rends compte que j'ai dit un oui et en fait, non, c'est too much pour moi, nanana. Alors, comment je fais pour revenir, nanana? Comment je fais pour assumer un oui qui n'était pas un vrai oui? Bon, voilà, et tout ça, ça vient des fois faire aïe, ouille. Mais on en sort grandi. Voilà, on en sort avec une meilleure connaissance de soi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc, après ce voyage qui dure un an avec ton mari, tu deviens maman, tu t'installes à Lyon, dans ce collectif Les Choulans, et tu reprends la route quelques années plus tard, cette fois en Amérique du Nord et au Mexique, avec cette fois un autre projet qui était celui de vivre le collectif ou l'éco-village ou l'immersion au sein d'un collectif.
Oui, donc ça, c'est effectivement le dernier voyage que j'ai fait qui est très récent, qui date de juillet à décembre 2023, aux États-Unis et au Mexique. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'avec mon mari, si on avait voulu choisir des pays à visiter, on n'aurait jamais, jamais choisi ces deux pays, en fait. C'est très drôle. Et c'est plutôt dans l'envie d'un sens qui nous a attirés là-bas. C'est-à-dire que moi, je suis appelée par une communauté américaine depuis plus de 10 ans, qui s'appelle Twin Oaks, qui est une communauté qu'on m'a présentée avant que je crée Les Choulans. On m'a parlé de cette communauté, on m'a fait une présentation et j'ai trouvé ça incroyable. Et depuis que je suis accompagnatrice, depuis 2018, je parle de cette communauté, je présente cette communauté avec des vidéos, j'en parle alors que j'y suis jamais allée, enfin j'y avais jamais été. Et du coup, quand avec mon mari on s'est dit on va partir en voyage, je lui ai dit mais je veux aller voir Twin Oaks, cette communauté m'appelle, c'est important pour moi d'aller la voir et je rêve d'y aller. Et donc on a choisi d'aller aux États-Unis pour répondre à cet appel et du coup on a voulu aller voir des communautés. Donc là des communautés, aux États-Unis ils parlent ça de communautés intentionnelles. En France on dirait peut-être plus éco-village, mais ce sont des collectifs très grands. Donc, on a été jusque le village d'Ithaca. L'éco-village d'Ithaca, c'est 220 personnes. Twin Oaks, c'est une centaine. Dancing Rabbit, ils sont 40. Voilà, donc c'est des communautés assez grandes, vieilles aussi. Twin Oaks a 57 ans. Il y en a certaines qui sont plus jeunes. Mais voilà, on voulait des communautés vieilles pour avoir un recul, pour avoir une expérience. Nous, on est déjà à 11 ans d'expérience de collectif. Donc, vous voulez voir quelque chose qui nous apporte, qui aille un peu plus loin.
Mais pourquoi des collectifs? T'aurais pu, justement, comme tu vis déjà dans un collectif, t'aurais pu dire, tiens, on part à la plage, on fait complètement autre chose, loin de notre zone de confort, finalement.
Alors, on a fait de la plage, mais honnêtement, ça nous a vite gonflé. non, on a fait de la plage au Mexique, évidemment, mais ce qui nous a le plus nourri, c'est les collectifs, ça, c'est clair. Et ces collectifs anciens et les modes d'organisation, c'était vraiment ça qui nous a attirés. Et à Twin Oaks, qui nous a le plus plu, il faut savoir que c'est un peu une particularité quand même, il n'y en a pas tant que ça aux US, c'est le partage de revenus, d'être en partage de revenus et partage d'activités. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un lieu de vie, c'est aussi un lieu où les gens travaillent. Donc ils travaillent, ils vivent, et pour moi, il y a vraiment quelque chose c'est incroyable dans ces communautés, c'est que on fait un pas de côté, on fait la nique au monde capitaliste en fait, parce que comme le collectif a des dépenses et va chercher collectivement à avoir des revenus, entre les deux, ils se partagent les activités comme ils veulent. Et c'est là où ça devient magique, c'est que ils peuvent valoriser des choses qui ne sont pas valorisées dans notre société, comme faire à manger, faire le ménage ou garder des enfants. Et à Twin Oaks, tout vaut une heure. que ce soit une heure d'activité rémunératrice ou une heure de garder les enfants ou une heure de faire la vaisselle, eh ben, c'est payer la même chose. C'est-à-dire que tout le monde doit travailler 42 heures par semaine, y compris les tâches domestiques. Donc, en fait, voilà, ça peut faire hurler un Français de se dire quoi, 42 heures. Mais en vrai, quand nous, on travaille 35 heures, quand on rentre, on fait le ménage, on fait à manger, on s'occupe de nos enfants, alors que tout ça est inclus dans les 42 heures de Twinox. Donc, ils ont beaucoup plus de temps libre que nous. Voilà. Donc, après, je ne peux pas tout détailler.
On va pas développer le fonctionnement de Twinox. Je vais plutôt t'interroger sur la partie écolieu, vie communautaire. Donc, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, parce qu'on en parlait beaucoup dans les années 68. J'ai l'impression qu'il y a eu un boom, une explosion des mouvements communautaires à cette époque-là, mais aujourd'hui encore, des citoyens continuent à vivre en communauté ou à se rassembler pour expérimenter d'autres modes de vie.
Oui, oui, il en reste, il y en a quelques-unes encore qui existent. En France, c'est rare, mais il y en a aussi. Hein. Il y a les communautés de Longomaille, par exemple, qui restent, qui sont encore présentes. Donc oui, ça existe encore dans le monde. Il y a Global Ecovillage Network qui rassemble l'ensemble des écovillages dans le monde. Donc, il y en a encore beaucoup et je pense que il y a quand même un enrichissement, il y a quand même quelque chose de nouveau par rapport au mouvement hippie. Enfin, en tout cas, j'ose espérer qu'on a évolué par rapport aux années 70 et qu'en tout cas, on a appris de cette expérience, de cette espèce de retour à la terre un petit peu naïf. Quoique, des fois on peut retrouver ça. Il y a des personnes qui ont encore ce côté retour à la terre un peu spontané, un petit peu naïf, tout ça. Mais bon, bref, voilà. En tout cas, oui, ça existe. Moi, j'avais envie d'aller voir effectivement des communautés qui sont vieilles. Il faut savoir que Twinox, pour revenir à Twinox, c'est pas né d'un mouvement hippie. C'était pas attiré par un retour à la terre, mais plutôt l'envie d'une organisation du travail différent. C'est pour moi, c'est une communauté qui est vraiment à part, qui est vraiment et très très inspirante, vraiment très inspirante. Et après, j'en ai vu d'autres qui étaient vraiment très intéressantes. Enfin, toutes les communautés ont des choses qui sont très intéressantes dans des rapports interrituels. Puis là, je parle des communautés US, mais j'ai visité aussi beaucoup de communautés en Europe. Il peut y avoir Damanhour en Italie, il y a Siebenlinden en Allemagne. Enfin, il y a énormément de communautés qui sont vraiment très intéressantes en Europe. Et puis évidemment, il y a aussi Auroville en Inde, voilà, que moi j'ai pas encore visité, mais qui sera certainement une des prochaines sur la liste, et qui sont des communautés très inspirantes. Moi, derrière ça, j'ai le souhait maintenant de vraiment créer et favoriser, alors de créer ma communauté en France, mais aussi de favoriser la création de communautés en France, donc de faire réfléchir justement sur cette histoire de partage de revenus et d'activité. Je dis pas que c'est absolument quelque chose à faire, mais j'aime présenter les avantages que ça a, parce que dans notre modèle un peu capitaliste, on pense, on a une manière de penser qui nous empêche de voir les avantages de ce montage-là. Donc voilà.
Mais alors, à quel besoin ça répondrait à la vie en communauté selon toi aujourd'hui, hein, face à l'état du monde, à quel besoin ou à quelle problématique répond la vie communautaire?
La vie communautaire, comme je l'imagine, donc avec ce partage de revenus et d'activités, hein, parce qu'on peut imaginer un modèle communautaire qui serait pas comme ça, mais pour moi, ça vient vraiment répondre à des besoins, comme je disais, de valoriser des tâches qui ne sont pas valorisées dans notre société, donc d'avoir un rééquilibrage, d'aller sur des questions aussi de répartition des tâches par genre, on va pouvoir aller questionner plein de choses, on va pouvoir aller questionner l'efficacité dans le travail, en disant une heure égale une heure, ça veut dire que en fait, moi en une heure je fais une tâche, alors que toi en une heure t'en fais deux. En fait, à la fin, on est payé la même chose, en fait. Donc, on sort de cette, cette envie d'être efficace à tout prix. Voilà. Et c'est questionnant. C'est vraiment très intéressant, cette notion de rapport à l'efficacité. Ça vient aussi questionner du genre, ça veut dire qu'un expert et un apprenti vont être payés la même chose. Ça veut dire aussi que dans les communautés, il y a quelque chose qui est très fort, c'est qu'on va pouvoir alterner des travaux manuels et des travaux intellectuels. Ça, c'est des choses qui sont très difficiles à faire dans nos sociétés. Donc voilà. Moi, je trouve que ça apporte plein de choses. Et que, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que on va chercher une résilience, on va chercher un équilibre collectivement. On sort du côté individualiste pour voir à ses besoins individuellement. Et ce rapport à l'argent, ça vient vraiment questionner le rapport à l'argent et la propriété. C'est perturbant, hein, mais même moi, hein, je prône ça, mais je ne cache pas aussi que moi-même, je me sens perturbée par ça. Mais j'ai ce sentiment profond que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Pour proposer autre chose, pour s'organiser autrement, pour créer, pour aller vraiment sur un système de coopération vraiment différent. Et du coup, pour moi, la coopération entre nous vient d'une coopération économique, mais vient aussi d'une vision commune. Enfin voilà, ça vient très largement. Enfin voilà, je peux pas tout détailler, mais je suis à fond là-dedans. J'ai créé une chaîne YouTube où je présente toutes les communautés et plein de choses. Voilà, si ça vous intéresse, Audrey Jiquel, vous trouverez ma chaîne YouTube. Je présente un peu tout ça, mais c'est vraiment quelque chose d'assez fort, voilà, qui pour moi est un vrai pas de côté par rapport à ce qu'on peut trouver en France actuellement, en collectif. Je connais pas trop ça. Il y a des prémices, hein, je dis pas que ça n'existe pas. Je pense à l'Arche de Saint-Antoine, qui est une communauté qui existe depuis 25 ans à peu près, et qui voilà, entre Grenoble et Valence, et qui est une communauté en partage de revenus d'activité, et qui a ces réflexions là voilà, c'est intéressant.
Audrey, merci à toi.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.